Il est 12h30 et vous écoutez bien France Culture. Tout de suite, c'est l'heure des informations avec Antoine Mercier. Bonjour Antoine.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. La rencontre El Khomri-Martinez. Ce matin, au ministère du Travail, le gouvernement et la CGT n'ont pas trouvé de consensus, déclare la ministre. Nous avons confirmé nos désaccords, affirme sur un même ton donc le secrétaire général de la CGT. Nous les entendrons, précision, dans un petit instant avec Sarah Petitbon. Cérémonie d'hommage national aux policiers, à sa compagne assassinée par un homme se revendiquant de l'organisation État islamique. François Hollande annonce des mesures pour garantir l'anonymat des policiers en dehors de leur service. La campagne pour le référendum britannique suspendu pour 24 heures après le meurtre hier de la députée pro-européenne Jo Cox. On sera en ligne avec Franck Mathevon. La progression des forces irakiennes face à l'État islamique. Elles sont entrées ce matin dans le centre de la ville de Fallujah et même repris le QG du gouvernement à ces djihadistes. Précision d'Éric Biegala, l'invité de la séquence interview, le député européen Alain Lamassoure. Et dans la dernière partie de la grande table, on parlera aussi du Brexit.
Oui, on se demandera ce qui se joue dans le débat britannique en compagnie de Pauline Schnapper et Laetitia Strauch-Bonnard, l'une est professeure de civilisation britannique contemporaine à l'université Sorbonne Nouvelle Paris 3, l'autre est chercheuse en histoire et spécialiste de la vie des idées en Grande-Bretagne où elle habite.
La rencontre s'est donc achevée sur un constat de désaccord, mais elle a tout de même permis de renouer le dialogue. Pour la première fois depuis la mi-mars, en effet, la ministre du Travail, Myriam El Khomri, et le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, se sont rencontrés pendant plus de 2 heures au ministère du Travail. La ministre affirme donc que le gouvernement et la CGT n'ont pas trouvé de consensus, mais nous avons confirmé nos désaccords, déclare de son côté Philippe Martinez. On écoute l'un puis l'autre à la sortie donc de cette rencontre.
Il y a des points de désaccord entre la CGT et le gouvernement sur des choses de fond. Voilà, et ces désaccords sont confirmés aujourd'hui. Voilà.
Ce n'est pas un désaccord complet. Vous pensez qu'il y a une porte de sortie ?
Écoutez, nous on a fait des propositions. On a proposé des méthodes au gouvernement parce que ce n'est pas nous qui gouvernons. On a par exemple demandé que la suspension du débat parlementaire justement pour pouvoir aller au fond des choses. C'est le gouvernement qui gouverne et c'est le gouvernement qui a la main, c'est ce qu'on dit depuis le début, la balle est dans le camp du gouvernement.
En effet, nous avons des désaccords, ils sont pas nouveaux, il n'y a pas de scoop par rapport à cela. Vous savez, les propositions ont été remises ce matin. Je vais bien sûr les regarder attentivement. Nous avons toujours, à chacune d'ailleurs des étapes parlementaires, nous avons enrichi le texte. L'enrichir, oui, mais sans en dénaturer la philosophie. C'est très clair de ce point de vue-là, et notamment la question de la primauté de l'accord d'entreprise en matière de temps de travail. Mais nous allons regarder les propositions, comme je regarde, et je le rappelle ici, celles de l'ensemble des organisations syndicales.
La déclaration donc ce matin des deux protagonistes. On va noter toutefois que les positions ne semblent pas peut-être complètement irréconciliables. Monsieur Martinez parle seulement, peut-on dire, de points de désaccord avec le gouvernement, tandis que Madame El Khomri soutient que l'absence de consensus sur la loi travail ne veut pas dire que, je cite, nous ne sommes pas en capacité de mieux travailler ensemble. Le gouvernement ne va pas retirer les articles qui fâchent la CGT, on l'a bien compris, mais le texte pourrait donc être enrichi, selon cette formule utilisée ce matin par Madame El Khomri. Bonjour Sarah Petitbon.
Bonjour Antoine.
Est-ce qu'un compromis peut être trouvé finalement par le truchement de cet enrichissement ?
Si l'on s'en tient aux prises de position officielles, rien ne bouge. La CGT et le gouvernement restent fermement campés sur leur position. La ministre du Travail l'a redit ce matin, on l'a entendu. Elle n'entend pas remettre en question la primauté des accords d'entreprise sur les accords de branche, principal point de désaccord entre l'intersyndicale et le gouvernement. D'autres divergences subsistent toujours concernant notamment les licenciements économiques ou la médecine du travail. Pas de consensus donc ce matin. Pourtant, en coulisses, on se félicite de cette rencontre. Un premier pas vers la reprise du dialogue, dit-on de part et d'autre. La CGT qui ne réclame plus le retrait de la loi et à qui le ministère reprochait de pratiquer la politique de la chaise vide, a présenté un certain nombre de propositions en vue de réécrire le texte. Proposition que Myriam El Khomri s'est engagée donc à regarder attentivement. C'est une petite avancée, mais c'est peut-être déjà ça. Parmi les sorties de crise possibles, la possibilité peut-être d'amender le texte au moment de son deuxième passage à l'Assemblée en juillet. En coulisses, le rapporteur du texte, Christophe Sirugue, s'active, évoquant la possibilité de revoir certains articles de la loi, sans toutefois évoquer l'article 2. Les prochaines journées de mobilisation, elles sont maintenues pour le leader de la CGT. Il n'y a pour le moment aucune raison de renoncer à ces leviers d'action.
Sarah Petitbon, merci beaucoup. On salue notre invité, le député européen Alain Lamassoure. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous voyez qu'un compromis est maintenant possible après ce qu'on a entendu ce matin ? Comment vous percevez ?
Aucune idée. Je n'en ai rigoureusement aucune idée. Je trouve qu'on atteint un degré de ridicule, de dérisoire qui est tout à fait extraordinaire. Il ne reste quasiment plus rien dans cette loi. Et la CGT continue non seulement ses grèves et ses manifestations avec ses débordements absolument scandaleux qu'on a vu l'autre jour au détriment de l'hôpital des enfants malades de Necker. Au point où nous en sommes, l'intérêt général, c'est que le gouvernement ne cède pas. Mais le résultat de tout ça sera une occasion de réformer nécessaire, tragiquement gaspillée, et une espèce de délitement de l'esprit d'intérêt général dans notre pays.
Esprit d'intérêt général, c'est... quand même là-dessus, on va beaucoup parler de l'Europe tout à l'heure. Est-ce que la loi El Khomri est, comme on le dit parfois, quelque chose qui serait demandé, en tout cas par Bruxelles ?
C'est une plaisanterie. La loi El Khomri, c'est-à-dire l'introduction d'éléments de souplesse et la diminution de la rigidité du code du travail, c'est l'intérêt fondamental de la France. Hein. C'est pas Bruxelles qui a dit il faut que vous adoptiez telle ou telle disposition du code du travail. Simplement, ce que constatent nos partenaires européens, c'est que la France, qui est la deuxième économie de la zone euro, et qui est donc responsable, par sa mauvaise gestion nationale, du mauvais état économique de la zone euro, n'a pas remis de l'ordre dans ses affaires, qu'elle continue d'avoir un déficit budgétaire qui est un des plus importants de la zone euro, et qu'elle ne fait aucune des réformes qui lui permettraient de retrouver la compétitivité économique. Mais sur les moyens de retrouver cette compétitivité et de lutter contre le chômage, nous avons totale liberté, c'est notre intérêt, c'est pas un diktat de Bruxelles.
Voilà, on reparle bien sûr tout à l'heure de la Grande-Bretagne et du référendum à une semaine maintenant du vote. À signaler encore que 10 organisations politiques de la gauche, dont le Parti communiste et le Parti Les Verts, dénoncent ce matin dans un communiqué la possible interdiction des manifestations contre la loi travail. Ils y voient une menace inacceptable pour la démocratie. Pour la première fois, écrivent-ils, depuis des décennies, un gouvernement propose d'interdire une manifestation syndicale. Cette annonce est d'une extrême gravité pour les libertés publiques.
Lors de la cérémonie d'hommage national au policier et à sa compagne assassinée par un homme se revendiquant de l'organisation État islamique, François Hollande a annoncé des mesures pour garantir l'anonymat des policiers en dehors de leur service.
Ce crime doit nous amener, a-t-il dit, à donner aux policiers et aux gendarmes les moyens de se défendre lorsqu'ils ne sont pas en service, en conservant leur arme à tout moment, comme cela a été admis par les policiers dans le cadre de l'état d'urgence. Il nous faut aussi éviter, poursuit François Hollande, autant que possible, que les policiers et les gendarmes soient identifiés et pris pour cible par les malfaiteurs qu'ils ont mis hors d'état de nuire ou par leurs complices. Des mesures donc vont être prises pour garantir leur anonymat et donc leur protection. Fin de citation.
La campagne pour le référendum britannique est suspendue pour 24 heures. Elle s'est interrompue après le meurtre hier de la députée pro-européenne Jo Cox.
Députée travailliste, 41 ans, mère de deux enfants, tuée donc par balle en pleine rue d'un village de sa circonscription dans le nord de l'Angleterre. Évidemment, il y a le choc et l'émotion en Grande-Bretagne. Franck Mathevon, bonjour.
Bonjour Antoine.
Alors le tueur présumé serait, dit-on, un partisan d'un groupe néo-nazi qui serait basé aux États-Unis. C'est l'information de la matinée, est-ce que vous confirmez ?
Oui, en effet, d'après les dernières informations, Thomas Mayer serait lié à des mouvements d'extrême droite. On trouve en effet son nom sur des sites internet radicaux. Il serait proche de groupes suprémacistes blancs. Hier, il a attendu Jo Cox à la sortie d'une permanence avec des électeurs. Il était armé. Il lui a tiré dessus 3 fois, puis l'a frappé de plusieurs coups de couteau. Et des témoins sont certains de l'avoir entendu crier « Britain first » ou « Put Britain first », la Grande-Bretagne d'abord. Un slogan nationaliste. Ça tend à confirmer un acte au moins en partie politique. La police refuse à ce stade de s'exprimer à ce sujet. On a par ailleurs appris que Thomas Mayer, 52 ans, avait souffert de maladies mentales. On n'a pas plus de détails à ce propos. L'enquête devra donc aussi établir s'il avait bien toute sa tête. L'homme a un frère et un demi-frère qui ont tous deux parlé à la presse. Ils se disent sidérés par ce qui s'est passé. Le demi-frère est métis et affirme n'avoir jamais entendu Thomas Mayer tenir des propos racistes.
Alors la question, c'est bien sûr de savoir si l'émotion du jour est de nature à modifier la tendance, les intentions de vote qui sont, on le sait depuis le début de la semaine en tout cas, assez nettement en faveur du Brexit.
Alors d'abord, la campagne est donc suspendue jusqu'à demain et on se dit que le ton de cette campagne pourrait changer. Le climat a été tendu, vous le savez, ces dernières semaines. Les propos ont parfois été violents. Dans la presse, certains commentaires évoquent aujourd'hui cette atmosphère de campagne. Le Times parle du langage de plus en plus excessif du débat politique. L'humeur est détestable, écrit l'éditorialiste Polly Toynbee dans le Guardian, qui tient une partie des membres du camp du Brexit pour responsable non pas de l'attaque, mais de cette humeur, le ton incendiaire, les coups bas, le racisme manifeste de certains militants, fermez les guillemets. D'après le Times, ce drame pourrait, de manière indirecte, favoriser le Remain, le camp du maintien dans l'UE. Les pro-Brexit sont passés en tête dans les derniers sondages grâce notamment à leur message anti-establishment, anti-immigration, la mort dans l'exercice de ses fonctions d'une députée qui a notamment fait campagne pour les réfugiés syriens, affaiblit considérablement cet argumentaire.
Franck Mathevon, merci beaucoup. En direct de Londres, Alain Lamassoure, est-ce que vous avez un pronostic sur ce référendum ?
Non, je n'en ai pas. Je dirais que ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour nous qui sommes en dehors du jeu. Nous n'avons pas interféré avec la campagne britannique. Nous voulons laisser le peuple britannique libre de choisir son destin. Nous souhaitons que le peuple britannique choisisse de rester parmi nous. S'il fait le choix contraire, nous en prendrons acte. Nous commenterons les résultats le lendemain. Mais je m'abstiens de pronostics. Bon, je suis un homme politique, je ne suis pas un commentateur.
Question quand même, qu'est-ce qui va se passer le jour d'après en cas de Brexit ? Pour la France, par exemple, ou pour l'Europe ?
Attendez, d'abord pour le Royaume-Uni. Il va se passer une tragédie au Royaume-Uni.
De quelle nature ?
Bon, je laisse de côté la crise financière, les banques centrales seront gérées. Crise politique majeure. Je ne vois pas comment le Premier ministre, qui s'est engagé ardemment, tardivement mais ardemment, pour l'Union européenne, pourrait rester au pouvoir. Ce qui veut dire que le Parti conservateur va avoir à trouver un nouveau Premier ministre. Et dans l'état de division où se trouve le Parti conservateur aujourd'hui, puisqu'il y a même 6 ministres du gouvernement qui ont fait campagne contre, sans démissionner du gouvernement. Il va falloir qu'ils trouvent une personnalité capable de réunir les pro-Brexit et les anti-Brexit. Ça ne va pas être une petite affaire.
Bon, ce sont des problèmes politiques, mais qui ne sont pas forcément si graves que cela, ou en tout cas qui se règlent, parce qu'on a souvent entendu des discours, notamment des organisations internationales, dire « attention, ce sera une catastrophe économique aussi, pas seulement des réajustements politiques nécessaires, comme après tout traumatisme électoral ».
Attendez, il va y avoir des catastrophes politiques bien pires. Si le Brexit l'emporte, l'Écosse va voter massivement « oui » à l'Europe, et non au Brexit. Et les Écossais ont annoncé à l'avance que dans cette hypothèse-là, ils demanderaient, et donc ils obtiendront, et ils gagneront, un nouveau référendum sur l'indépendance de l'Écosse. Le Royaume-Uni n'existe plus. Mais il y a pire. Il y a pire, c'est la campagne actuellement en Irlande du Nord. Les Irlandais du Nord ne sont pas réconciliés depuis l'accord de paix passé il y a 18 ans. Les tensions restent encore extrêmes. Les unionistes protestants font campagne pour le Brexit, les catholiques font campagne pour le Remain, pour rester dans l'Union européenne. Et ils ont annoncé, les catholiques, que dans l'hypothèse où le Brexit gagnerait à l'échelle de l'Union européenne, ils demanderont un référendum sur la réunification de l'Irlande.
Donc, alors, désagrégation de,
donc,
du Royaume-Uni.
Problème politique majeur, le Royaume-Uni risque de disparaître. David Cameron est un Premier ministre qui joue sur un coup de dé la survie de son pays. Alors j'ajoute, les conséquences pour la City de Londres seront absolument redoutables. Parce qu'ils vont se trouver devant un dilemme infernal, ou bien, fiers d'avoir retrouvé leur souveraineté nationale, ils adoptent des règles financières qui ne s'appliquent qu'à eux, et la City, qui a réussi jusqu'à présent l'exploit d'être la première place financière de la zone euro, ben, devient simplement la place financière d'un petit pays qui est le Royaume-Uni, laissé à lui-même, ou bien, ce qui serait raisonnable, la City garde les règlements financiers applicables dans les 28 pays de l'Union européenne, y compris les modifications que nous ne manquerons pas d'adopter dans les années qui viennent. Mais à ce moment-là, ça veut dire qu'ils appliqueront les règles que nous déciderons sans eux et qui désormais s'appliqueront chez eux. Donc paradoxalement, le fait de sortir de l'Union aura privé les Anglais de leur souveraineté financière.
Je vous arrête là parce qu'on va parler des conséquences pour l'Europe dans la dernière partie de cette intervention. Je voudrais demander son avis quand même à l'invité de la dernière partie de la Grande Table, Pauline Schnapper. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc professeur de civilisation britannique contemporaine à Paris 3. Est-ce que vous partagez ce diagnostic sombre d'une dislocation possible du Royaume-Uni?
De risque de dislocation, absolument. Bon, il ne faut pas non plus dramatiser dans le sens où je ne suis pas certaine que les Écossais soient prêts à sortir de leur union avec l'Angleterre pour réentrer dans l'Union européenne en cas de Brexit, c'est-à-dire qu'il y aurait vraiment un dilemme. Il est certain que les indépendantistes écossais demanderaient un nouveau référendum, mais d'abord, il n'est pas du tout certain que Londres leur accorderait. Ils n'ont pas le pouvoir constitutionnel de l'organiser par eux-mêmes, comme en Espagne. Donc Londres ne leur accorderait peut-être pas et probablement pas. Et même si un deuxième référendum avait lieu, il n'est pas certain qu'il y aurait une majorité pour sortir du Royaume-Uni comme il n'y en a pas eu il y a 2 ans. Mais le risque est réel, ça c'est clair. Et sur l'Irlande du Nord, effectivement, les protestants sont partagés sur la question du Brexit. Le DUP est favorable au Brexit comme les conservateurs anglais dont ils sont très proches. L'autre parti plus modéré est pour le maintien. Mais il y aurait une crise politique et une crise constitutionnelle à tout coup en cas de Brexit, ça c'est sûr.
Voilà, on parle de l'enjeu plus général tout à l'heure avec vous dans la dernière partie de la Grande Table. Pauline Schnapper, merci bien d'être intervenue aussi dans cette édition.
En tout cas, ce qui s'est passé hier en Croatie n'est sans doute pas étranger aux difficultés rencontrées globalement dans l'Union européenne. Le gouvernement nationaliste est tombé hier après avoir passé 5 mois aux affaires.
Oui, un passage qui a été marqué par des polémiques sur le virage à droite de ce membre de l'Union européenne, rappelons-le. Les nationalistes laissent en héritage une image troublée, des controverses répétées entre exaltation des valeurs traditionnelles nationalistes et catholiques et accusation d'avoir voulu relativiser les crimes commis par le régime oustachi pro-nazi durant la Deuxième Guerre mondiale. Bruno Kalen.
La chute du gouvernement croate est symptomatique de plusieurs crises qui traversent actuellement de nombreux pays européens. L'instabilité tout d'abord. Le gouvernement de l'homme d'affaires croato-canadien Tihomir Orešković, issu d'une élection sans majorité et de longues tractations, n'a duré que 5 mois. La corruption ensuite. À l'origine, il y a la démission du vice-premier ministre conservateur Tomislav Karamarko, son épouse ayant signé un contrat de consultante avec la compagnie pétrolière hongroise MOL, en conflit avec l'État croate. La dérive droitière ensuite du parti conservateur HDZ, ce parti, membre principal de la coalition sortante, suit la voie hongroise ou polonaise, avec la volonté de contrôler les médias, l'exaltation des valeurs traditionnelles et nationalistes et un alignement sur les positions les plus conservatrices de l'Église catholique croate, sur l'avortement ou l'éducation notamment. Vous l'avez dit, le ministre sortant de la culture a même tenté de réhabiliter en partie les oustachis, ses collaborateurs des nazis. Mais comme en Pologne, Hongrie ou Slovaquie, ce raidissement conservateur a entraîné une réaction épidermique des libéraux. Le parti centriste Most, le Pont en croate, partenaire minorité de la coalition, s'est raidi et a voté contre le gouvernement lors de la motion de censure. Quant à la gauche, elle n'est pas en meilleure position. Le parti social-démocrate au pouvoir pendant 4 ans est battu lors du dernier scrutin, rêve de revanche et réclame de nouvelles élections. Mais au vu de cet éclatement politique, il est peu probable qu'il obtienne la majorité. La Croatie risque donc de cumuler encore crise politique et crise économique.
Bruno Kalen, merci.
Il est 12h48 sur France Culture. La progression des forces irakiennes face à l'État islamique, elles sont entrées ce matin dans le centre de la ville de Fallujah et ont repris le QG du gouvernement aux djihadistes.
Après plusieurs jours de combat, les forces d'élite effectivement du contre-terrorisme et puis les autres unités irakiennes ont réussi à entrer dans le centre de cet important fief djihadiste. Nous sommes à 50 km à l'ouest de Bagdad. Elles avaient auparavant encerclé la ville et repris donc progressivement les quartiers périphériques jusqu'à arriver maintenant au centre. Éric Bigala.
Oui Antoine, ça fait 3 bonnes semaines que les forces irakiennes se sont lancées dans la bataille, réduisant d'abord la plupart des villages et des lotissements périurbains qui se trouvaient un petit peu autour de la ville. Les troupes de Bagdad, les unités spéciales de la police et de l'armée sont entrées dans les quartiers de la ville proprement dites au début de cette semaine et par le sud. La ville de Fallujah est en fait traversée à peu près à moitié par une longue double avenue qui court d'est en ouest et qui est en fait l'axe qui mène à Bagdad. Hier soir, les forces irakiennes avaient atteint cet axe, libérant tous les quartiers sud de l'agglomération. Cette nuit et ce matin, elles ont franchi l'avenue de Bagdad et pris le complexe administratif de Fallujah, qui se trouve immédiatement de l'autre côté. C'est là où étaient cantonnées notamment les forces de police, l'administration urbaine. C'était aussi le principal quartier général de l'État islamique en ville. Ces dernières heures, les forces irakiennes poursuivent leur progression. Elles auraient réussi à prendre également le complexe hospitalier italiens qui se trouvent un peu plus loin, sur cette même avenue de Bagdad. Il semble, Antoine, que la progression des troupes irakiennes depuis 24 heures soit facilitée par une défense de plus en plus faible des djihadistes. Certains ont manifestement rompu le combat et il n'est pas impossible qu'ils se soient fondus dans le flot de civils qui quittent le centre urbain de Fallujah, parfois en traversant l'Euphrate à la nage.
Éric Bégala, merci. Retour vers notre invité Alain Lamassoure. Vous avez parlé tout à l'heure des conséquences pour la Grande-Bretagne, pour le Royaume-Uni en général d'un éventuel Brexit. J'aimerais évidemment vous interroger aussi sur le jour d'après en Europe et en France en particulier. Quelles conséquences selon vous ?
En France, il n'y a pas de conséquences particulières. En Europe, ce qui sera très important, c'est la réaction des 27 membres de l'Union européenne après le départ des Britanniques. Et là, très clairement, les conditions seront réunies pour que nous lancions enfin l'Europe politique dont nous avons besoin et qui sera probablement l'équivalent d'une Europe à deux vitesses. Et le mérite de ce référendum, c'est que ça nous obligera à nous poser mutuellement à 27 la question de confiance. Quels sont ceux d'entre nous qui seraient éventuellement prêts à suivre l'exemple britannique? Il faut poser la question. À mon avis, il n'y en aura pas beaucoup, mais on ne sait pas. Quels sont ceux qui se satisfont de l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui, qui est pour l'essentiel une Europe économique, un grand marché? Quels sont ceux qui, en face des défis du XXIe siècle, défis négatifs, si je puis dire, dangers, pression migratoire, terrorisme, nationalisme russe, etc. Défis positifs, l'essor et les opportunités offertes par l'économie numérique sont prêts à bâtir ensemble l'Europe du XXIe siècle, une politique étrangère commune, une politique défense commune, une politique migratoire commune, une politique numérique commune. Et là, nous allons avoir l'occasion de relancer l'Europe.
Alors quand même, les peuples en général européens aujourd'hui sont plutôt en train de... l'hostilité vis-à-vis de l'Europe progresse plutôt. Vous allez, après qu'un membre sera sorti, vous allez dire, on va faire plus encore, on va aller plus loin dans ce système.
Comment oui, vous allez présenter la chose? Parce que c'est ce qu'attendent une majorité de citoyens européens. Parce qu'il ne faut pas se méprendre sur le mécontentement généralisé, je vous rejoins, des citoyens vis-à-vis de l'Europe. Il y a deux catégories. Il y a ceux qui n'aiment pas l'Europe, qui sont anti-européens. C'est le cas de beaucoup de Britanniques. C'est le cas, traditionnellement, d'un tiers des Français. Il y a ceux qui sont furieux parce qu'ils sont déçus de l'Europe. Mais il est clair que, face au problème de la pression migratoire, face à la lutte contre le terrorisme, face aux défis que nous pose le nationalisme russe, face aux négociations qu'il faudra mener en matière commerciale à la Chine, face à l'essor de l'économie numérique, le bon sens implique que l'on réponde au niveau européen parce qu'on est complètement dépassé au niveau national. Et si les gens sont furieux contre l'Europe, c'est parce que, j'emploie un mot anglais, elle ne délivre pas, elle ne s'occupe pas, elle ne traite pas des problèmes pour lesquels nous avons besoin d'elle. Il faut maintenant utiliser l'Europe pour traiter ces problèmes.
Est-ce que François Hollande est en train de préparer avec Angela Merkel un tel plan pour après éventuellement le Brexit, l'annonce du Brexit?
Est-ce que vous êtes au courant de ça? Parole.
Non, mais vous êtes au courant que déjà...
Je ne suis au courant de rien. Je fais le pronostic qu'il prononcera des paroles bénisseuses. Et je le regrette. Et je regrette que malheureusement, depuis déjà quelque temps, la France ne remplit pas son rôle historique au sein de l'Union européenne, qui est d'être dans la cabine de pilotage de l'Airbus européen avec l'Allemagne, pour montrer la direction, pour faire des propositions et pour entraîner les autres. La France se contente de commenter les événements, je le regrette.
Ce que vous me dites me fait quand même penser que cette histoire de Brexit pourrait vraiment modifier très sensiblement la campagne pour la présidentielle 2017. Parce que si le choix c'est sortir ou renforcer, disons qu'il y aura une clarification aussi à l'intérieur de pour l'opinion française, de savoir
exactement,
quel choix on fait.
Et donc exactement.
On ne le voit pas forcément aujourd'hui.
Et c'est une très bonne nouvelle. C'est-à-dire que ça va nous obliger nous-mêmes à clarifier notre position vis-à-vis de l'Europe. Nous-mêmes, les 27 pays, et à l'intérieur de chaque pays, qui veut véritablement quoi? Parce que jusqu'à présent, ça a été très commode pour beaucoup de dirigeants de s'abriter derrière les Britanniques et de dire on ne peut pas faire plus de politique étrangère européenne parce que les, on peut pas faire du tout de politique défense européenne parce que les Britanniques veulent pas. On peut pas augmenter le budget européen parce que les Britanniques veulent pas. Maintenant, on sera mis devant nos responsabilités. Et je me réjouis du fait que pour la première fois, nous aurons enfin une campagne présidentielle en France qui parle d'Europe et où les candidats seront amenés à se prononcer clairement sur leur vision de l'Europe.
Et les candidats, la primaire à droite, lequel vous semble le plus défendre vos idées à vous, européens ?
Je suis le supporter d'Alain Juppé et les propos que je viens d'exprimer et ceux que j'ai exprimés récemment sur l'Europe reflètent entièrement sa pensée.
Merci beaucoup Alain Lamassoure d'avoir accepté notre invitation à Mots du Temps avec un ciel variable, de belles éclaircies qui vont alterner avec des passages nuageux. Ils seront plus compacts près de la frontière belge mais aussi sur la côte aquitaine. Il y aura donc quelques averses sur ces régions. Température 17 à 28 degrés. Édition réalisée avec Yacine Bouzard. 17h, magazine de la rédaction. Nous restons dans le sujet. La City se mobilise contre les risques du Brexit. Reportage d'Annabelle Grelier. À Londres notamment, réalisation Annie Brault, présentation Tara Schlegel. 18h, le prochain journal vous sera présenté par Antoine Denecher.